Chapitre 17. Quand le lendemain, à 11 heures précises, Raskolnikov se présenta chez le juge d'instruction, il s'étonna d'avoir affaire antichambre assez longtemps. D'après ce qu'il présumait, on aurait dû le recevoir tout de suite. Or, 10 minutes au moins s'écoulèrent avant qu'il pût voir Porfir Pietrovitch. Dans la pièce d'entrée, où il attendit d'abord, des gens allaient et venaient, sans paraître s'occuper de lui le moins du monde. Dans la pièce suivante, qui ressemblait à une chancellerie, travaillaient quelques scribes, et il était évident qu'aucun d'eux n'avait même l'idée de ce que pouvait être Raskolnikov. Le jeune homme promena un regard défiant autour de lui. Ne se trouvait-il pas là quelques sbires, quelques Argus mystérieux, chargé de le surveiller et, le cas échéant, d'empêcher sa fuite? Mais il ne découvrit rien de semblable. Les scribes étaient tout à leur besogne et les autres ne faisaient aucune attention à lui. Le visiteur commença à se rassurer. Si, en effet, pensa-t-il, ce mystérieux personnage d'hier, ce spectre sorti de dessous terre, savait tout et avait tout vu, eh bien, est-ce qu'on me laisserait faire le pied de grue comme cela? Et même, est-ce qu'on ne m'aurait pas arrêté déjà au lieu d'attendre que je vinsse ici de mon propre gré? Donc, ou cet homme n'a encore fait aucune révélation contre moi, ou tout simplement il ne sait rien et n'a rien vu. D'ailleurs, comment aurait-il pu voir? Par conséquent, j'ai eu la berlue, et tout ce qui m'est arrivé hier n'était qu'une illusion de mon imagination malade. Il trouvait de plus en plus vraisemblable cette explication qui, déjà la veille, s'était offerte à son esprit au moment où il était le plus inquiet. En réfléchissant à tout cela et en se préparant à une nouvelle lutte, Raskolnikov s'aperçut tout à coup qu'il tremblait, et il s'indigna même à la pensée que c'était la peur d'une entrevue avec l'odieux Porfir Pietrovitch qui le faisait trembler. Le plus terrible pour lui était de se retrouver de nouveau en présence de cet homme. Il le haïssait au-delà de toute mesure, et il craignait même de se trahir par sa haine. Son indignation fut si forte qu'elle arrêta net son tremblement. Il s'apprêta à entrer d'un air froid et assuré, se promit de parler le moins possible, de se tenir toujours sur le qui-vive, enfin de donner à briner à tout prix son naturel irascible. Sur ces entrefaites, on l'introduisit auprès de Porfir Pietrovitch. Celui-ci se trouvait alors seul dans son cabinet. Cette pièce de dimension moyenne contenait une grande table faisant face à un divan recouvert de toiles cirées, un bureau, une armoire placée dans une encoignure et quelques chaises. Tout ce mobilier fourni par l'État était en bois jaune. Dans le mur, ou plutôt la cloison du fond, il y avait une porte fermée, ce qui donnait à penser qu'il devait se trouver d'autres pièces derrière la cloison. Dès que Porfir Pietrovitch eut vu Raskolnikov pénétrer dans son cabinet, il alla fermer la porte par laquelle le jeune homme était entré et tous deux restèrent en tête à tête. Le juge d'instruction fit à son visiteur l'accueil en apparence le plus gai et le plus affable. Ce fut seulement au bout de quelques minutes que Raskolnikov s'aperçut des façons légèrement embarrassées du magistrat. Il semblait qu'on l'eût dérangé au milieu d'une occupation clandestine. « Ah, très respectable, vous voilà, dans nos parages !» commença Porfir en lui tendant les deux mains. « Allons, asseyez-vous donc, Batouchka. Mais peut-être vous n'aimez pas qu'on vous appelle très respectable et Batouchka ainsi tout court. Oh, ne regardez pas cela, je vous prie, comme une familiarité. Et ici, là, sur le divan, Raskolnikov s'assit sans quitter des yeux le juge d'instruction. Ces mots dans nos parages, ces excuses pour sa familiarité, cette expression française tout court, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Il m'a tendu les deux mains sans m'en donner aucune. Il les a retirées à temps, pensa Raskolnikov mis en défiance. Tous deux s'observaient l'un l'autre, mais dès que leurs regards se rencontraient, ils détournaient les yeux avec la rapidité de l'éclair. Je suis venu vous apporter ce papier au sujet de la montre, voilà. Est-ce bien ainsi ou faut-il faire une autre lettre ? Quoi ? Quel papier ? Ah oui, non, vous inquiétez pas, c'est très bien, répondit avec une sorte de précipitation Porfir, qui prononça ces mots avant même d'avoir examiné le papier, puis quand il eut jeté un rapide coup d'œil. Oui, c'est très bien, c'est tout ce qu'il faut, continua-t-il, parlant toujours aussi vite, et il déposa le papier sur la table. Une minute après, il le serra dans son bureau, tout en causant d'autres choses. Vous avez hier, me semble-t-il, témoigné le désir de m'interroger dans les formes au sujet de mes relations avec la victime, reprit Raskolnikov. Allons, pourquoi ai-je dit me semble-t-il, pensa tout à coup le jeune homme. Oh, eh bien, qu'importe ce mot, de quoi vais-je la m'inquiéter, ajouta-t-il mentalement presque aussitôt après. Par ce fait seul qu'il se trouvait en présence de Porfir, avec qui il avait à peine échangé deux mots, sa défiance avait pris des proportions insensées. Il s'en aperçut soudain et comprit que cette disposition d'esprit était extrêmement dangereuse. Son agitation, l'agacement de ses nerfs ne ferait qu'augmenter. Mauvais, oh, je vais encore lâcher quelques sottises. Oui, ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. Nous avons le temps, murmura Porfir Pietrovitch, qui, sans aucune intention apparente, allait et venait dans la chambre, s'approchant tantôt de la fenêtre, tantôt du bureau, pour revenir ensuite près de la table. Parfois, il évitait le regard soupçonneux de Raskolnikov. Parfois, il s'arrêtait brusquement et regardait son visiteur en plein visage. C'était un spectacle extraordinairement bizarre qu'offrait en ce moment ce petit homme gros et rond dont les évolutions rappelaient celles d'une balle ricochant d'un mur à l'autre. « Oh, rien ne presse. Mais vous fumez ? Avez-vous du tabac ? Tenez, voici une cigarette, continua-t-il en offrant un paquitos au visiteur. Vous savez, je vous reçois ici, mais mon logement est là, derrière cette cloison. C'est l'État qui me le fournit. Je ne suis ici qu'en volant parce qu'il y avait quelques arrangements à faire dans mon appartement. À présent, tout est prêt ou peu s'en faut. Savez-vous que c'est une fameuse chose qu'un logement fourni par l'État ? Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est une fameuse chose, répondit Raskolnikov en le regardant d'un air presque moqueur. Oh, une fameuse chose, répéta Porfir Petrovitch, qui semblait avoir l'esprit occupé d'un tout autre sujet. Oui, oh, une fameuse chose, fit-il brusquement d'une voix presque tonnante en s'arrêtant à deux pas de Raskolnikov, qu'il fixa tout à coup. L'incessante et sotte répétition de cette phrase, qu'un logement fourni par l'État était une fameuse chose, contrastait par sa platitude avec le regard sérieux, profond, énigmatique qu'il dirigeait maintenant sur son visiteur. La colère de Raskolnikov s'en accrut. Il ne put s'empêcher d'adresser au juge d'instruction un défi moqueur et assez imprudent. « Oh, vous savez, » commença-t-il en le regardant presque insolemment, et en se complaisant dans sa insolence, se paraît-il une règle juridique, un principe pour tous les juges d'instruction, de mettre d'abord l'entretien sur des niaiseries ou même sur une chose sérieuse, étrangère à la question, afin d'enhardir celui qu'ils interrogent, ou plutôt afin de le distraire, d'endormir sa prudence. Puis alors, brusquement, à l'improviste, il lui assène en plein sa cipute la question la plus dangereuse, n'est-ce pas ? C'est une coutume pieusement observée dans votre profession. Oh, alors ainsi vous pensez que si je vous ai parlé de logements fournis par l'État, c'était pour... En disant cela, Porfir Petrovitch cligna des yeux, son visage prit pour un instant une expression de gaieté malicieuse, les petites rides de son front s'aplanirent, ses petits yeux devinrent plus étroits encore, les traits de son visage se dilatèrent, et regardant Raskolnikov entre les deux yeux, il éclata d'un rire nerveux, prolongé, qui secoua toute sa personne. Le jeune homme se mit à rire lui-même en se forçant un peu. À cette vue, l'hilarité de Porfir Petrovitch redoubla à tel point que le visage du juge d'instruction devint presque cramoisi. Raskolnikov éprouva alors un dégoût qui lui fit oublier toute prudence. Il cessa de rire, fronça le sourcil, et tout le temps que Porfir s'abandonna à cette gaieté qui semblait un peu factice, il attacha sur lui un regard haineux. L'un, du reste, ne s'était pas plus observé que l'autre. Porfir s'était mis à rire au nez de son visiteur qui avait très mal pris la chose, et il paraissait se soucier fort peu du mécontentement de Raskolnikov. Cette dernière circonstance donna fort à penser au jeune homme. Il crut comprendre que son arrivée n'avait nullement dérangé le juge d'instruction. C'était au contraire lui, Raskolnikov, qui était tombé dans un traquenard. Évidemment, il y avait quelques pièges, quelques embûches qu'il ne connaissait pas. La mine était déjà chargée, peut-être, et elle allait éclater dans un moment. Allant droit au fait, il se leva et prit sa casquette. Porfir Petrovitch, déclara-t-il d'un ton résolu, mais où perçait une assez vive irritation. Hier, vous m'avez témoigné le désir de me faire subir un interrogatoire. Il appuya particulièrement sur le mot interrogatoire. Je suis venu me mettre à votre disposition. Si vous avez des questions à m'adresser, questionnez-moi. Sinon, permettez-moi de me retirer. Je ne puis pas perdre mon temps ici, j'ai autre chose à faire. Il faut que j'aille à l'enterrement de ce fonctionnaire qui a été écrasé par une voiture et dont, enfin, vous avez aussi entendu parler, ajouta-t-il. Et aussitôt, il s'en voulut d'avoir ajouté cette phrase. Puis il poursuivit avec une colère croissante. « Oh, tout cela m'ennuie, entendez-vous, il y a trop longtemps que cela dure. C'est en partie ce qui m'a rendu malade. En un mot, » continua-t-il d'une voix de plus en plus irritée, car il sentait que la face sur sa maladie était encore plus déplacée que l'autre, « en un mot, veuillez m'interroger ou souffrez que je m'en aille à l'instant même. » Mais si vous m'interrogez, que ce soit dans la forme voulue par la procédure, autrement, je ne vous le permets pas. D'ici là, adieu, puisque pour le moment, nous n'avons rien à faire ensemble. Seigneur, mais que dites-vous donc ? Mais sur quoi vous interrogez ? Reprit le juge d'instruction, qui cessa instantanément de rire. Ne vous inquiétez pas, je vous prie. Il invitait Raskolnikov à se rasseoir, tandis que lui-même continuait d'aller et venir dans la chambre. « nous avons le temps, et tout cela n'a pas d'importance. Au contraire, je suis si content que vous soyez venu chez nous. C'est comme visiteur que je vous reçois. Quant à ce maudit rire, Batouchka, Rodion Romanovitch, excusez-moi. Je suis un homme nerveux. Vous n'avez pas beaucoup abusé par la finesse de votre observation. Il y a des fois où vraiment je me mets à bondir comme une balle élastique, et cela pendant une demi-heure. Je suis rieur, mon tempérament me fait même craindre l'apoplexie. Mais asseyez-vous donc, pourquoi restez-vous debout? Je vous en prie, Batouchka, autrement je croirais que vous êtes fâché. Les sourcils toujours froncés, Raskolnikov se taisait, écoutait et observait. Cependant, il s'assit. Bon, ce qui me concerne, Batouchka Rodion Romanovitch, je vous dirai une chose qui servira à vous expliquer mon caractère, reprit Porfir Pietrovitch, qui continuait à se trébousser dans la chambre et comme toujours évitait de rencontrer les yeux de son visiteur. Oh, je vis seul, vous savez, je ne vais pas dans le monde et je suis inconnu. Ajoutez que je suis un homme sur le retour, déjà fini et avez-vous remarqué, Rodion Romanovitch, que chez nous, c'est-à-dire en Russie, et surtout dans les cercles pétersbourgeois, quand viennent à se rencontrer deux hommes intelligents qui ne se connaissent pas encore bien, mais qui s'estiment réciproquement comme vous et moi, par exemple, en ce moment, ils ne peuvent rien trouver à se dire pendant une demi-heure entière. Ils restent comme pétrifiés vis-à-vis l'un de l'autre. Tout le monde a un sujet de conversation. Les dames, par exemple, les gens du monde, les personnes de la haute société. Dans tous ces milieux, on a de quoi causer, c'est de rigueur. Mais les gens de la classe moyenne, comme nous, sont gênés et taciturnes. D'où cela vient-il, Batouchka? N'avons-nous pas d'intérêts sociaux? Ou bien cela tient-il à ce que nous sommes des gens trop honnêtes qui ne veulent pas se tromper l'un l'autre? N'en sais rien. Eh bien, quel est votre avis? Mais débarrassez-vous donc de votre casquette, on dirait que vous voulez vous en aller. Et cela me fait de la peine. Je suis au contraire si heureux. Raskolnikov déposa sa casquette. Il ne se départit point de son mutisme, et les sourcils froncés prêtaient l'oreille au vain bavardage de Porfir. Sans doute il ne débite toutes ces sottises que pour distraire mon attention. Oh, je vous offre pas de café, c'est pas le lieu, mais ne pouvez-vous passer 5 minutes avec un ami, histoire de lui procurer une distraction, poursuivit l'intarissable Porfir. Vous savez, toutes ces obligations du service. Oh, ne vous formalisez pas, Batouchka, si vous me voyez ainsi aller et venir. Excusez-moi, Batouchka, j'ai grand peur de vous blesser, mais le mouvement m'est si nécessaire. Je suis toujours assis, et c'est pour moi un si grand bonheur de pouvoir me remuer pendant 5 minutes. J'ai des hémorroïdes. J'ai toujours l'intention de me traiter par la gymnastique. Le trapèze est, dit-on, en grande faveur parmi les conseillers d'État actuels et même les conseillers intimes. De nos jours, la gymnastique est devenue une véritable science. Quant à ses devoirs de notre charge, à ses interrogatoires et à tout ce formalisme, c'est vous-même, Batouchka, qui en parliez tantôt. Eh bien, vous savez, en effet, Batouchka, Rodion Romanovitch, ces interrogatoires déroutent parfois le magistrat plus que le prévenu. Vous l'avez fait remarquer tout à l'heure avec autant d'esprit que de justesse. Raskolnikov n'avait fait aucune observation semblable. On s'embrouille, on perd le fil. Pour ce qui est de nos coutumes juridiques, je suis pleinement d'accord avec vous. Quel est, dites-moi, l'accusé, fut-il le bougique le plus obtus, qui ignore qu'on commencera par lui poser des questions étrangères pour l'endormir, selon votre heureuse expression, puisqu'on lui assènera brusquement un coup de hache en plein Saint-Siput. En plein Saint-Siput, pour me servir de votre ingénieuse métamorphose. Ainsi vous avez pensé, qu'en vous parlant de logement, je voulais vous... Oh, vous êtes un homme caustique. Alors, je ne reviens pas là-dessus. Ah oui, à propos, un mot en appelle un autre. Les pensées s'attirent mutuellement. Tantôt, vous parliez de la forme en ce qui concerne le magistrat instructeur. Mais qu'est-ce que la forme? Vous savez, en bien des cas, la forme ne signifie rien. Parfois, une simple conversation, un entretien amical, conduit plus sûrement à un résultat. La forme ne disparaîtra jamais, permettez-moi de vous rassurer à cet égard, mais qu'est-ce au fond que la forme? Je vous le demande. On ne peut pas obliger le juge d'instruction à la traîner sans cesse à son pied. La besogne de l'enquête est dans son genre un art libéral ou quelque chose d'approchant. Porfir Petrovitch s'arrêta un instant pour reprendre haleine. Il parlait sans interruption, tantôt débitant de pures âneries, tantôt glissant au milieu de ses fadaises de petits mots énigmatiques, après quoi il recommençait à dire des riens. Sa promenade autour de la chambre ressemblait maintenant à une course. Il mouvait ses grosses jambes de plus en plus vite et faisait toujours les yeux baissés. Sa main droite était fourrée dans la poche de sa redingote, tandis qu'avec la main gauche, il esquissait continuellement divers gestes qui n'avaient aucun rapport avec ses paroles. Raskolnikov remarqua ou crut remarquer qu'en courant autour de la chambre, il s'était arrêté deux fois près de la porte et avait paru écouter durant un instant. Est-ce qu'il attend quelque chose? Oh, vous avez parfaitement raison, reprit gaiement Porfir en regardant le jeune homme avec une bonhomie qui mit aussitôt ce dernier en défiance. Nos coutumes juridiques méritent en effet vos spirituelles railleries. Ces procédés, prétendument inspirés par une profonde psychologie, sont fort ridicules et souvent même stériles. Pour en revenir à la forme, eh bien, supposons que je sois chargé de l'instruction d'une affaire. Je sais, ou plutôt je crois savoir, que le coupable est un certain monsieur... Bon, ne vous préparez-vous pas à suivre la carrière du droit, Vodian Romanovitch? Oui, j'étudiais. Eh bien, voici un petit exemple qui pourra vous servir plus tard. C'est-à-dire, ne croyez pas que je me permette de trancher du professeur avec vous, mais... À Dieu le plaise que je prétende enseigner quoi que ce soit à un homme qui traite dans les journaux les questions de criminalité. Non, je prends seulement la liberté de vous citer un petit fait à titre d'exemple. Je suppose donc que j'ai cru découvrir le coupable. Pourquoi, je vous le demande, l'inquiéterais-je prématurément, lors même que j'aurais des preuves contre lui ? Sans doute un autre qui n'aurait pas le même caractère, je le ferais arrêter tout de suite, mais celui-ci, pourquoi ne le laisserais-je pas se promener un peu dans la ville? Non. Ah, je vois que vous ne comprenez pas très bien. Je vais m'expliquer plus clairement. Si, par exemple, je me presse trop de lancer un mandat d'arrêt contre lui, eh bien, par là, je lui fournis, pour ainsi dire, un point d'appui moral. Vous riez. Raskolnikov ne pensait même pas à rire. Il tenait ses lèvres serrées et son regard enflammé ne quittait pas des yeux de Porfir Petrovitch. Pourtant, dans l'espèce, cela est ainsi, car les gens sont très divers, quoique, malheureusement, la procédure soit la même pour tous. Mais du moment que vous avez des preuves, allez-vous me dire, eh mon Dieu, Batouchka, vous savez ce que c'est que les preuves? les trois quarts du temps, les preuves sont à deux fins. Et moi, juge d'instruction, je suis homme, partant, sujet à l'erreur. Or, je voudrais donner à mon enquête la rigueur absolue d'une démonstration mathématique. Je voudrais que mes conclusions fussent aussi claires, aussi indiscutables que 2 × 2 font 4. Donc, si je fais arrêter ce monsieur avant le temps voulu, j'aurais beau être convaincu que c'est lui, je me retire à moi-même les moyens ultérieurs d'établir sa culpabilité. Et comment cela ? Mais parce que je lui donne en quelque sorte une situation définie. En le mettant en prison, je le calme, je le fais rentrer dans son assiette psychologique. Mais désormais, il m'échappe, il se replie sur lui-même, il comprend enfin qu'il est un détenu. Si au contraire, je laisse parfaitement tranquille le coupable présumé, si je ne le fais pas arrêter, si je ne l'inquiète pas, mais qu'à toute heure, à toute minute, il soit obsédé par la pensée que je sais tout, que je ne le perds de vue ni le jour ni la nuit, qu'il est de ma part l'objet d'une surveillance infatigable, qu'arrivera-t-il dans ces conditions ? Infailliblement, il sera pris de vertige, il viendra lui-même chez moi, il me fournira quantité d'armes contre lui et me mettra en mesure de donner aux conclusions de mon enquête un caractère d'évidence mathématique, ce qui ne manque pas de charme. Si ce procédé peut réussir avec un moujik inculte, il n'est pas non plus sans efficacité quand il s'agit d'un homme éclairé, intelligent, distingué même à certains égards. Car l'important, mon cher ami, c'est de deviner dans quel sens un homme est développé. Celui-ci est intelligent, je suppose, mais il a des nerfs qui sont excités, malades. Et l'habile que vous oubliez, quel rôle elle joue chez tous ces gens-là ? Je vous le répète, il y a là une vraie mine de renseignements. Et que m'importe qu'il se promène en liberté dans la ville, je puis bien le laisser jouir de son reste. Je sais qu'il est ma proie et qu'il ne m'échappera pas. En effet, où irait-il ? À l'étranger, allez-vous dire ? Un Polonais se sauvera à l'étranger, mais pas lui. D'autant plus que je le surveille et que mes mesures sont prises en conséquence. Se retirera-t-il dans l'intérieur du pays ? Mais là habitent des moujiks grossiers, des Russes primitifs dépourvus de civilisation. Cet homme éclairé aimera mieux aller en prison que de vivre dans un pareil milieu. D'ailleurs, tout cela ne signifie rien encore. C'est l'accessoire, le côté extérieur de la question. Il ne s'enfuira pas, non seulement parce qu'il ne saurait où aller, mais encore et surtout parce que psychologiquement, il m'appartient. Comment trouvez-vous cette expression ? En vertu d'une loi naturelle, il ne fuira pas alors même qu'il pourra le faire. Avez-vous vu le papillon devant la chandelle ? Eh bien, il tournera sans cesse autour de moi comme cet insecte autour de la flamme. La liberté n'aura plus de douceur pour lui. Il deviendra de plus en plus inquiet, de plus en plus ahuri. Que je lui en laisse le temps et il se livrera à des agissements tels que sa culpabilité en ressortira claire comme 2 × 2 font 4. Et toujours, toujours, il tournera autour de moi, décrivant des cercles de plus en plus resserrés, jusqu'à ce qu'enfin, paf, il volera dans ma bouche et je l'avalerai. C'est fort agréable, vous ne croyez pas ? Raskolnikov gardait le silence. Pâle et immobile, il continuait à observer le visage de Porfir avec un pénible effort d'attention. La leçon est bonne, pensait-il, terrifié. Ce n'est même plus comme hier, le chat jouant avec la souris. Oh, sans doute il ne me parle pas ainsi pour le seul plaisir de me montrer sa force. Il est bien trop intelligent pour cela. Il doit avoir un autre but, mais quel est-il? Va donc, mon ami, tout ce que tu en dis, c'est pour m'effrayer. Tu n'as pas de preuves et l'homme d'hier n'existe pas. Tu peux tout bonnement me dérouter si tu veux me mettre en colère et frapper le grand coup quand tu me verras dans cet état. Seulement, tu te trompes, tu en seras pour tes peines. Mais pourquoi parle-t-il ainsi à mots couverts? Il spécule sur l'agacement de mon système nerveux. Non, mon ami, cela ne prendra pas, quoique tu aies manigancé. Nous allons voir un peu ce que tu as préparé là. Et il s'apprêta à affronter bravement la terrible catastrophe qu'il prévoyait. De temps à autre, il avait envie de s'élancer sur Porphyre et de l'étrangler, séance tenante. Dès son entrée dans le cabinet du juge d'instruction, sa grande crainte était de ne pouvoir maîtriser sa colère. Il sentait son cœur battre avec violence, ses lèvres devenir sèches et l'écume s'y figer. Cependant, il résolut de se taire, comprenant que, dans sa position, c'était la meilleure tactique. De la sorte, en effet, non seulement il ne se compromettrait pas, mais il réussirait peut-être à irriter son ennemi, à lui arracher quelques paroles imprudentes. Du moins, tel était l'espoir de Raskolnikov. Non, je vois que vous ne le croyez pas, vous pensez que je plaisante, reprit Porphyre. Le juge d'instruction était de plus en plus gai, il ne cessait de faire entendre son petit rire, et il s'était remis à sa promenade autour de la chambre. Sans doute, vous avez raison, Dieu m'a donné une figure qui n'éveille chez les autres que des idées comiques. Je suis un bouffon. Mais excusez le langage d'un vieillard. Vous, Rodion Romanovitch, vous êtes dans la fleur de l'âge, et comme tous les jeunes gens, vous appréciez au-delà de tout l'intelligence humaine. Le piquant de l'esprit et les déductions abstraites de la raison vous séduisent. Pour en revenir au cas particulier dont nous parlions tout à l'heure, je vous dirais, monsieur, qu'il faut compter avec la réalité, avec la nature. C'est une chose importante et comme elle triomphe parfois de l'habileté la plus consommée. Écoutez, un vieillard, je parle sérieusement, Rodion Romanovitch. En prononçant ces mots, Porphyre Pietrovitch, qui comptait à peine 35 ans, semblait en effet avoir vieilli tout d'un coup. Une métamorphose soudaine s'était produite dans toute sa personne et jusque dans sa voix. De plus, je suis un homme franc. Suis-je ou non un homme franc? Qu'en pensez-vous? Il me semble qu'on ne peut pas l'être davantage. Je vous confie de pareilles choses et je ne me demande même pas de récompense. Eh bien, je continue. La finesse d'esprit est, à mon avis, une fort belle chose. C'est pour ainsi dire l'ornement de la nature, la consolation de la vie, et avec cela, on peut, semble-t-il, jobarder facilement un pauvre juge d'instruction qui lui-même est d'ailleurs souvent trompé par sa propre imagination, car il est homme. Mais la nature vient en aide aux pauvres juges d'instruction. Voilà le malheur. Et c'est à quoi ne songe pas la jeunesse confiante dans son intelligence, la jeunesse qui foule aux pieds tous les obstacles, comme vous l'avez dit d'une façon si fine et si ingénieuse. Dans le cas particulier qui nous occupe, le coupable, je l'admets, mentira supérieurement, mais quand il croira n'avoir plus qu'à recueillir le fruit de son adresse, crac, il s'évanouira dans l'endroit même où un pareil accident doit être le plus commenté. Mettons qu'il puisse expliquer sa syncope par un état maladif, par l'atmosphère étouffante de la salle. N'importe, il n'en a pas moins donné matière aux soupçons. Il a menti d'une façon incomparable, mais il n'a pas su prendre ses précautions contre la nature. Voilà où est le piège. Une autre fois, entraîné par son humeur moqueuse, il s'amusera à mystifier quelqu'un qui le soupçonne, et par jeu, il fera semblant d'être le criminel recherché par la police. Mais il entrera trop bien dans la peau du bonhomme. Il jouera sa comédie prétendue avec trop de naturel, et ce sera encore un indice. Sur le moment, son interlocuteur pourra être dupe, mais si ce dernier n'est pas un niais, il se ravisera dès le lendemain. Notre homme se compromettra ainsi à chaque instant. Que dis-je ? Il viendra de lui-même là où il n'est pas appelé, et il se répandra en paroles imprudentes, en allégories dont le sens n'échappera à personne. Et il viendra demander pourquoi on ne l'a pas encore arrêté. Et cela peut arriver à un personnage d'un esprit très fin, voire à un psychologue et à un littérateur. La nature est le miroir le plus transparent. Il suffit de le contempler. Mais pourquoi pâlissez-vous ainsi, Rodion Romanovitch? Oh, vous avez peut-être trop chaud, voulez-vous qu'on ouvre la fenêtre? Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, cria Raskolnikov, et tout à coup il se mit à rire. Je vous en prie, ne faites pas attention. Porfir s'arrêta en face de lui, attendit un moment, et soudain partit lui-même d'un éclat de rire. Raskolnikov, dont l'hilarité s'était subitement calmée, se leva. Porfir Petrovitch, dit-il d'une voix nette et forte, bien qu'il eût peine à se tenir sur ses jambes tremblantes, je n'en puis plus douter, vous me soupçonnez positivement d'avoir assassiné cette vieille et sa sœur Elisabeth. De mon côté, je vous déclare que depuis longtemps, j'en ai assez de tout cela. Si vous croyez avoir le droit de me poursuivre, de me faire arrêter, me poursuivez-moi. Mettez-moi en état d'arrestation. Mais je ne permets pas qu'on se moque de moi et qu'on me martyrise. Tout à coup, ses lèvres commencèrent à frémir. Ses yeux lancèrent des flammes et sa voix, jusqu'alors contenu, atteignit le diapason le plus élevé. « Je ne le permets pas » cria-t-il brusquement, et il asséna un vigoureux coup de poing sur la table. « Entendez-vous cela, Porfir Petrovitch ? Je ne le permets pas !»« Ah, Seigneur, mais qu'est-ce qui vous prend ?» s'écria le juge d'instruction, en apparence fort inquiet. « Matouchka, Roman Romanovitch !» « Mon bon avis, mais qu'est-ce que vous avez ?»« Je ne le permets pas !» répéta Raskolnikov. « Matouchka, un peu plus bas. On va vous entendre, on viendra. Et alors, qu'est-ce que nous dirons ? Pensez un peu à cela !» murmura d'un air effrayé Porfir Petrovitch, qui avait approché son visage de celui de son visiteur. « Je ne le permets pas, je ne le permets pas !» poursuivit machinalement Raskolnikov. Mais cette fois, il avait baissé le ton de façon à n'être entendu que de Porfir. Celui-ci courut ouvrir la fenêtre. « Oh, il faut aérer la chambre, mais si vous buviez un peu d'eau, mon cher ami, voyez-vous, c'est un petit accès !» Déjà, il s'élançait vers la porte pour donner des ordres à un domestique quand il aperçut dans un coin une carafe d'eau. Batouchka, buvez !» murmura-t-il en s'approchant vivement du jeune homme avec la carafe. « Cela vous fera peut-être du bien. » La frayeur et même la sollicitude de Porfir Pietrovitch semblaient si peu feintes que Raskolnikov se tut et se mit à l'examiner avec une curiosité morne. Du reste, il refusa l'eau qu'on lui offrait. Prodion Romanovitch, mon cher ami, mais si vous continuez ainsi, vous vous rendrez fou. Je vous l'assure, buvez donc, mais buvez au moins quelques gouttes. Il lui mit presque de force le verre d'eau dans la main. Machinalement, Raskolnikov le portait à ses lèvres quand, soudain, il se ravisa et le déposa avec dégoût sur la table. « Oui, oh, vous avez eu un petit accès. Vous en ferez tant, mon cher ami, que vous aurez une rechute de votre maladie, » observa du ton le plus affectueux le juge d'instruction, qui paraissait toujours fort troublé. « Seigneur, est-il possible de se déménager si peu? C'est comme Dmitri Prokofitch qui est venu hier chez moi. Oh, je reconnais que j'ai l'humeur caustique, que mon caractère est affreux, mais seigneur, quelle signification on a donné à l'offensif saillie? Il est venu hier après votre visite. Nous étions en train de dîner. Il a parlé. Je me suis contenté d'écarter les bras, mais en moi-même, je me disais, « Oh, mon Dieu, c'est vous qui l'avez envoyé, n'est-ce pas ?»« Asseyez-vous donc, Batouchka, asseyez-vous, pour l'amour du Christ !»« Non, ce n'est pas moi, mais je savais qu'il était allé chez vous, et pourquoi il vous avait fait cette visite ?» répondit sèchement Raskolnikov. Ah, vous le saviez? Oui. Eh bien, qu'en concluez-vous? Oh, j'en conclus, Batouchka Rodion Romanovitch, que je connais encore bien d'autres de vos faits et gestes. Je suis informé de tout. Je sais qu'à la nuit tombante, vous êtes allé pourlouer l'appartement, vous. Et vous vous êtes mis à tirer le cordon de la sonnette. Vous avez fait une question au sujet du sang. Vos façons ont stupéfié les ouvriers et les dvorniks. Oh, je comprends dans quelle situation morale vous vous trouviez alors. Mais il n'en est pas moins vrai que toutes ces agitations vous rendront fou. Une noble indignation bouillonne en vous. Vous avez à vous plaindre de la destinée d'abord et des policiers ensuite. Aussi allez-vous ici et là pour forcer en quelque sorte les gens à formuler tout haut leurs accusations. Ces commérages stupides vous sont insupportables et vous voulez en finir au plus tôt avec tout cela. Est-ce vrai? Ai-je bien deviné à quel sentiment vous obéissez? Seulement, vous ne vous contentez pas de vous mettre la tête à l'envers. Vous la faites perdre aussi à mon pauvre Razoumikhin, et c'est vraiment dommage d'affoler un si brave garçon. Sa bonté l'expose plus que tout autre à subir la contagion de votre maladie. Quand vous serez calmé, Batouchka, je vous raconterai. Mais asseyez-vous donc, Batouchka, pour l'amour du Christ, je vous en prie. « Reprenez vos esprits, vous êtes tout défait. Asseyez-vous donc. » Raskolnikov s'assit. Un tremblement fiévreux agitait tout son corps. Il écoutait avec une profonde surprise Porfir Pietrovitch, qui lui prodiguait des démonstrations d'intérêt. Mais il n'ajoutait aucune fois aux paroles du juge d'instruction, quoiqu'il eût une tendance étrange à y croire. Il avait été extrêmement impressionné en entendant Porfir lui parler de sa visite au logement de la vieille. « Comment donc sait-il cela et pourquoi me le raconte-t-il lui-même ? Pensait le jeune homme. Oui, il s'est produit dans notre pratique judiciaire un cas psychologique presque analogue, un cas morbide, continua Porphyre. Un homme s'est accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et ce n'est rien de dire qu'il s'est déclaré coupable. Il a raconté toute une histoire, une hallucination dont il avait été le jouet, et son récit était si vraisemblable, paraissait tellement d'accord avec les faits, qu'il défiait toute contradiction. Comment s'expliquer cela ? Sans qu'il y eût de sa faute, cet individu avait été en partie cause d'un assassinat. Quand il apprit qu'il avait, à son insu, facilité l'œuvre de l'assassin, il en fut si désolé que sa raison s'altéra et il s'imagina être lui-même le meurtrier. À la fin, le Sénat, dirigeant, examina l'affaire et l'on découvrit que le malheureux était innocent. Tout de même, sans le Sénat, dirigeant, c'en était fait de ce pauvre diable. Voilà ce qui vous pantonnait, Batouchka. On peut aussi devenir monomane quand on va la nuit, tirer des cordons de sonnette et faire des questions au sujet du sang. Voyez-vous, dans l'exercice de ma profession, j'ai eu l'occasion d'étudier toute cette psychologie. C'est un attrait du même genre qui pousse parfois un homme à se jeter par la fenêtre ou du haut d'un clocher. Vous êtes malade, Rodion Romanovitch. Vous avez eu tort de trop négliger au début votre maladie. Vous auriez dû consulter un médecin expérimenté au lieu de vous faire traiter par ce gros Zosimov. Tout cela est chez vous l'effet du délire. Pendant un instant, Raskolnikov crut voir tous les objets tourner autour de lui. Mais est-il possible qu'il mente encore en ce moment ? Se demandait-il. Et il s'efforçait de bannir cette idée, pressentant à quel excès de rage folle elle pourrait le pousser. Mais je n'étais pas en délire. « J'avais toute ma raison, cria-t-il, tandis qu'il mettait son esprit à la torture pour tâcher de pénétrer le jeu de Porphyre. « J'avais toute ma raison, entendez-vous ?»« Oui, je comprends et j'entends. Vous avez déjà dit hier que vous n'aviez pas le délire, mais vous avez même insisté particulièrement sur ce point. Je comprends tout ce que vous pouvez dire, mais permettez-moi de vous soumettre encore une observation. » Mon cher Rodion Romanovitch, si en effet vous étiez coupable ou que vous ayez pris une part quelconque à cette maudite affaire, je vous le demande, est-ce que vous soutiendriez que vous avez fait tout cela non en délire mais en pleine connaissance ? À mon avis, ce serait tout le contraire. Si vous sentiez votre cas véreux, vous devriez précisément soutenir Mordicus que vous avez agi sous l'influence du délire. Est-ce vrai ? Le ton de la question laissait soupçonner un piège. En prononçant ces derniers mots, Porphyre s'était penché vers Raskolnikov. Celui-ci se renversa sur le dossier du vidant et silencieusement regarda son interlocuteur en face. C'est comme pour la visite de M. Rajoubichin. Si vous étiez coupable, vous devriez dire qu'il est venu chez moi de lui-même et cacher qu'il a fait cette démarche à votre instigation. Or, loin de cacher cela, vous affirmez au contraire que c'est vous qui l'avez envoyé. Raskolnikov n'avait jamais affirmé cela. Un froid lui courut le long de l'épine dorsale. « Vous mentez toujours, » dit-il d'une voix lente et faible, en ébauchant un sourire pénible. « Vous voulez encore me montrer que vous lisez dans mon jeu, que vous savez d'avance toutes mes réponses, continua-t-il, sentant lui-même que déjà il ne pesait plus ses mots comme il l'aurait dû. « Vous voulez me faire peur, ou simplement vous vous moquez de moi ?» En parlant ainsi, Raskolnikov ne cessait de regarder fixement le juge d'instruction. Tout à coup, une colère violente fit de nouveau étinceler ses yeux. « Vous ne faites que mentir !» s'écria-t-il. « Vous savez parfaitement, vous-même, que la meilleure tactique pour un coupable, c'est d'avouer ce qui lui est impossible de cacher. Je ne vous crois pas. « Comme vous savez vous retourner, » ricana Porfir. « Mais avec cela, Batouchka, vous êtes fort entêté. C'est l'effet de la monomanie. Vous ne me croyez pas. Et moi, je vous dis que vous me croyez déjà un peu. Et je ferai si bien que vous me croirez tout à fait, car je vous aime sincèrement et je vous porte un véritable intérêt. » Les lèvres de Raskolnikov commencèrent à s'agiter. « Oui, oui, je vous veux du bien, » poursuivit Porfir en prenant amicalement le bras du jeune homme un peu au-dessus du coude. « Je vous le dis définitivement, soignez votre maladie. De plus, voilà que votre famille s'est maintenant transportée à Pétersbourg. Songez un peu à elle. Vous devriez faire le bonheur de vos parents, et au contraire, vous ne leur causez que des inquiétudes. Mais que vous importe? Comment savez-vous cela? Mais de quoi vous mêlez-vous? Ainsi, vous me surveillez et vous tenez à me le faire savoir. Batouchka, mais voyons, c'est de vous-même que j'ai tout appris. Vous ne remarquez même pas que dans votre agitation, vous parlez spontanément de vos affaires et à moi et aux autres. Plusieurs particularités intéressantes m'ont été aussi communiquées hier par M. Razoumikhin. Non, vous m'avez interrompu, j'allais vous dire que, malgré tout votre esprit, vous avez perdu la vue saine des choses par suite de votre humeur soupçonneuse. Tenez par exemple cet incident du cordon de sonnette. Voilà un fait précieux, un fait inappréciable pour un magistrat enquêteur. Je vous le livre naïvement, moi, juge d'instruction, et cela ne vous ouvre pas les yeux. Mais si je vous croyais le moins du monde coupable, est-ce ainsi que j'aurais agi? Ma ligne de conduite en ce cas était toute tracée. J'aurais dû au contraire commencer par endormir votre défiance, faire semblant d'ignorer ce fait, attirer votre attention sur un point opposé. Puis, brusquement, je vous aurais, selon votre expression, asséné sur le Saint-Siput la question suivante. Qu'êtes-vous donc allé faire, monsieur, à 10 heures du soir, au domicile de la victime? Pourquoi avez-vous tiré le cordon de la sonnette? Pourquoi avez-vous questionné au sujet du sang? Pourquoi avez-vous abasourdi les Dvorniks en demandant que vous conduisiez au bureau de police? Voilà comme j'aurais nécessairement procédé si j'avais quelques soupçons à votre endroit. J'aurais dû vous soumettre à un interrogatoire en règle, ordonner une perquisition, m'assurer de votre personne. Puisque j'ai agi autrement, c'est donc que je ne vous soupçonne pas. Mais vous avez perdu le sens exact des choses et vous ne voyez rien, je le répète. Raskolnikov trembla de tout son corps, ce dont Porfir Petrovitch put facilement s'apercevoir. « Vous mentez toujours !» vociféra le jeune homme. « Je ne sais quelles sont vos intentions, mais vous mentez toujours. Tout à l'heure, vous ne parliez pas dans ce sens-là. Il m'est impossible de me faire illusion. Vous mentez !» « Je mens !» répliqua Porfir avec une apparence de vivacité. Du reste, le juge d'instruction conservait l'air le plus enjoué et semblait n'attacher aucune importance à l'opinion que Raskolnikov pouvait avoir de lui. « Je mens ? Mais comment en ai-je usé avec vous tantôt ? Moi, juge d'instruction, je vous ai suggéré les arguments psychologiques que vous pouviez faire valoir, la maladie, le délire, les souffrances d'amour propre, l'hypocondrie, l'affront reçu au bureau de police, etc. N'est-ce pas ? Il est vrai ! Soit dit en passant, que ces moyens de défense ne se tiennent pas debout. Ils sont à deux fins. On peut les retourner contre vous. Si vous dites « J'étais malade, j'avais le délire, je ne savais ce que je faisais, je ne me souviens de rien », on vous répondra « Oh, tout cela est fort bien, Badouchka, mais pourquoi donc le délire affecte-t-il toujours chez vous le même caractère ? Il pourrait se manifester sous d'autres formes, pas vrai ?» Raskolnikov se leva et le regardant d'un air plein de mépris. « En fin de compte, dit-il avec force, je veux savoir si oui ou non je suis pour vous en état de suspicion. Parlez, Porfir Petrovitch, expliquez-vous sans embâge et tout de suite, à l'instant. » « Oh, mon Dieu, vous voilà comme les enfants qui demandent la lune !» reprit Porfir, toujours goguenard. « Mais qu'avez-vous besoin d'en savoir tant, puisqu'on vous a laissé jusqu'ici parfaitement tranquille ? Pourquoi vous inquiétez-vous ainsi ? Pourquoi venez-vous de vous-même chez nous quand on ne vous appelle pas ? Quelles sont vos raisons ? Je vous répète, cria Raskolnikov furieux, que je ne puis plus supporter.
Quoi ?
L'incertitude ? Interrompit le juge d'instruction. Ne me poussez pas à bout, je ne veux pas. Je vous dis que je ne veux pas. Je ne le puis ni ne le veux. Vous entendez ?
Reprit d'une voix de tonnerre Raskolnikov en déchargeant un nouveau coup de poing sur la table.
Plus bas, on va vous entendre. Je vous donne un avertissement sérieux. Prenez garde à vous, murmura Porfir.
Le juge d'instruction n'avait plus ce faux air de paysanne qui simulait la bonhomie sur son visage. Il fronçait le sourcil, parlait en maître et semblait sur le point de lever le masque. Mais cette attitude nouvelle ne dura qu'un instant. D'abord intrigué, Raskolnikov entra soudain dans un transport de colère. Cependant, chose étrange, cette fois encore, bien qu'il fût au comble de l'exaspération, il obéit à l'ordre de baisser la voix. D'ailleurs, il sentait qu'il ne pouvait faire autrement, et cette pensée contribua encore à l'irriter.
« Je ne me laisserai pas martyriser, murmura-t-il. Arrêtez-moi, fouillez-moi, faites des perquisitions, mais agissez selon la forme et ne jouez pas avec moi. N'ayez pas l'audace.
Ne vous inquiétez donc pas de la forme, interrompit Porfir de son ton narquois, tandis qu'il contemplait Raskolnikov avec une sorte de jubilation.
« C'est familièrement, Batouchka, c'est tout à fait en ami que je vous ai invité à venir me voir.
Je ne veux pas de votre amitié et je crache dessus, entendez-vous ? Et maintenant je prends ma casquette et je m'en vais. Qu'est-ce que vous direz si vous avez l'intention de m'arrêter ?»
Au moment où il approchait de la porte, Porfir lui saisit de nouveau le bras, un peu au-dessus du coude.
Ne voulez-vous pas avoir une petite surprise ? Ricana le juge d'instruction.
Il paraissait de plus en plus gai, de plus en plus goguenard,
ce qui mit décidément Raskolnikov hors de lui. Quelle petite surprise! Que voulez-vous dire? Demanda le jeune homme en s'arrêtant soudain et en regardant Porfire avec inquiétude.
Ben, une petite surprise qui est là, derrière la porte.
Et il montrait du doigt la porte fermée qui donnait accès à son logement situé derrière la cloison.
Je l'ai même enfermée à la clé pour qu'elle ne s'en aille pas.
Mais qu'est-ce que c'est, où, quoi? Raskolnikov s'approcha de la porte et voulut l'ouvrir, mais il ne le put.
Elle est fermée, voici la clé.
Se disant, le juge d'instruction tirait la clé de sa poche et la montrait à son visiteur.
« Bon, tu mens toujours !» hurla celui-ci, qui ne se posait des plus. « Tu mens, maudit polichinelle !»
En même temps, il voulut se jeter sur Porfire. Ce dernier fit retraite vers la porte, sans témoigner du reste aucune frayeur.
« Je comprends tout, tout !» vociféra Raskolnikov. « Tu mens et tu mérites pour que je me trahisse.
Mais vous n'avez plus à vous trahir, Batushka Rodion Romanovitch.
Voyez dans quel état vous êtes. Ne criez pas ou j'appelle.
Mais tu mens. Il n'y aura rien. Appelle tes gens. Tu savais que j'étais malade et tu as voulu m'exaspérer et me pousser à bout pour m'arracher des aveux. Voilà quel était ton but. Non, et produis tes preuves, j'ai tout compris. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as que de misérables suppositions, les conjectures Zamietov. Tu connaissais mon caractère. Tu as voulu me mettre hors de moi afin de faire ensuite apparaître brusquement les popes et les délégués. Tu les attends. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Où sont-ils? Montre-les!
Que parlez-vous de délégués, Batushka? Voilà des idées.
La forme même, pour employer votre langage, ne permet pas d'agir ainsi. Vous ne connaissez pas la procédure, mon cher ami.
Mais la forme sera observée, vous le verrez vous-même,
murmura Porfire, qui s'était mis à écouter à la porte. Un certain bruit se produisait, en effet, dans la pièce voisine.
« Ah, ils viennent !» s'écria Raskolnikov. « Tu les as envoyés chercher. Ah, tu les attendais. Tu avais compté. Eh bien, introduis-les tous, délégués témoins. Fais entrer qui tu voudras. Je suis prêt. »
Mais alors eut lieu un incident étrange, et si en dehors du cours ordinaire des choses, que sans doute ni Raskolnikov ni Porfir Petrovitch n'eussent pu le prévoir.
Chapitre 18. Voici le souvenir que cette scène laissa dans l'esprit de Raskolnikov. Le bruit qui se faisait dans la chambre voisine augmenta tout à coup et la porte s'entr'ouvrit.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» cria avec colère Porfir Petrovitch. « J'ai prévenu !»
Il n'eut pas de réponse, mais la cause du tapage se laissait deviner en partie. Quelqu'un voulait pénétrer dans le cabinet du juge d'instruction et on s'efforçait de l'en empêcher.
« Mais qu'est-ce qu'il y a donc là ?» répéta Porfir inquiet.
« Ben, c'est l'inculpé Nicolas qu'on a amené !» fit une voix.
« Je n'ai pas besoin de lui, je veux pas le voir, emmenez-le. Attendez un peu. Comment l'a-t-on conduit ici ?
Quel désordre ! Gronda Porfire en s'élançant vers la porte. « Mais c'est lui qui !» reprit la même voix, et elle s'arrêta soudain.
Durant 2 secondes, on entendit le bruit d'une lutte entre 2 hommes. Puis l'un d'eux repoussa l'autre avec force et brusquement fit invasion dans le cabinet. Le nouveau venu avait un aspect fort étrange. Il regardait droit devant lui, mais ne semblait voir personne. La résolution se lisait dans ses yeux étincelants, et en même temps son visage était livide comme celui d'un condamné que l'on mène à l'échafaud. Ses lèvres toutes blanches tremblaient légèrement. C'était un homme fort jeune encore, maigre, de taille moyenne et vêtu comme un ouvrier. Il portait les cheveux coupés en rond. Ses traits étaient fins et secs. Celui qu'il venait de repousser s'élança après lui dans la chambre et le saisit par l'épaule. C'était un gendarme, mais Nicolas réussit encore une fois à se dégager. Sur le seuil se groupèrent plusieurs curieux. Quelques-uns avaient grande envie d'entrer. Oh, tout cela s'était passé en beaucoup moins de temps que nous n'avons mis à le raconter. Va-t'en, il est encore trop tôt, attends qu'on t'appelle. Mais pourquoi l'a-t-on amené si tôt ? Grommela Porfire Pietrovitch, aussi irrité que surpris. Mais tout à coup Nicolas se mit à genoux. « Qu'est-ce que tu fais ? » cria le juge d'instruction de plus en plus étonné. « Pardon, je suis coupable, je suis l'assassin !» dit brusquement Nicolas d'une voix assez forte, malgré l'émotion qui l'étranglait. Il y eut, durant 10 secondes, un silence aussi profond que si tous les assistants étaient tombés en catalepsie. Le gendarme n'essaya plus de reprendre son prisonnier et se dirigea machinalement vers la porte où il resta immobile. « Qu'est-ce que tu dis ?» cria Porfir Pietrovitch quand sa stupéfaction lui eut permis de parler. « Je suis l'assassin !» répéta Nicolas après s'être tu un instant. « Qui as-tu assassiné ?» Le juge d'instruction était visiblement déconcerté. Nicolas attendit encore un instant avant de répondre. J'ai assassiné à coups de hache Alena Ivanovna et sa sœur Elisabeth Ivanovna. J'avais l'esprit égaré, ajouta-t-il brusquement. Puis il se tut, mais il restait toujours agenouillé. Après avoir entendu cette réponse, Porfir Pietrovitch parut réfléchir profondément. Ensuite, d'un geste violent, il invita les témoins à se retirer. Ceux-ci obéirent aussitôt, et la porte se referma. Raskolnikov, debout dans un coin, contemplait Nicolas d'un air étrange. Durant quelques instants, les regards du juge d'instruction allèrent du visiteur au détenu et vice-versa. À la fin, il s'adressa à Nicolas avec une sorte d'emportement. « Attends qu'on t'interroge avant de me dire que tu as eu l'esprit égaré, » fit-il d'une voix presque irritée. « Je ne t'ai pas encore demandé cela. Bon, parle maintenant. Tu as tué ?»«
Je suis l'assassin, j'avoue, » répondit Nicolas.
« Avec quoi as-tu tué ?»«
Avec une hache, je l'avais apportée pour cela. »«
Oh, comme il se presse. Seul ?»
Nicolas ne comprit pas la question.
« Tu n'as pas eu de complice ?»«
Oh non, non, Mitka est innocent. Il n'a pris aucune part au crime. »
« Ne te presse donc pas d'innocenter Mitka. Est-ce que je t'ai questionné à son sujet ?»
Pourtant, comment se fait-il que les Dvornik vous aient vu tous deux descendre l'escalier en courant ?
J'ai fait exprès de courir après Mitka. C'était une feinte pour détourner les soupçons, répondit Nicolas.
Alors, c'est bien, voilà assez, cria Porfir avec colère.
Il ne dit pas la vérité, grommela-t-il ensuite, comme à part soi.
Et soudain, ses yeux rencontrèrent Raskolnikov, dont il avait évidemment oublié la présence durant ce dialogue avec Nicolas. En apercevant son visiteur, le juge d'instruction parut se troubler. Il s'avança aussitôt vers lui.
« Rodion Romanovitch, Matouchka, excusez-moi, je vous prie,
Vous n'avez plus rien à faire ici. Moi-même, oh, vous voyez, quelle surprise, je vous prie. »
Il avait pris le jeune homme par le bras et lui montrait la porte.
Eh, « Il paraît que vous ne vous attendiez pas à cela, » observa Raskolnikov.
Naturellement, ce qui venait de se passer était encore pour lui une énigme. Cependant, il avait recouvré en grande partie son assurance.
« Mais vous ne vous y attendiez pas non plus, Matouchka. Voyez donc comme votre main tremble.
Ben, vous tremblez aussi, Porfir Pietrovitch.
Ah, c'est vrai, je ne m'attendais pas à cela. »
Il se trouvait déjà sur le seuil de la porte. Le juge d'instruction avait hâte d'être débarrassé de son visiteur.
Alors, vous ne me montrerez pas la petite surprise ?
Demanda brusquement celui-ci.
Oh, c'est à peine. S'il a retrouvé la force de parler, il fait déjà de l'ironie. Vous êtes un homme caustique. Allons, au revoir.
Oh, je crois qu'il vaudrait plutôt dire adieu.
Ce sera comme Dieu voudra, balbutia Porphyre avec un sourire forcé.
En traversant la chancellerie, Raskolnikov remarqua que plusieurs des employés le regardaient fixement. Dans l'antichambre, il reconnut au milieu de la foule les deux dvorniks de cette maison-là, ceux à qui il avait proposé l'autre soir de le mener chez le commissaire de police. Il paraissait attendre quelque chose. Mais à peine était-il arrivé sur le carré qu'il entendit de nouveau derrière lui la voix de Porfir Pietrovitch. Il se retourna et aperçut le juge d'instruction qui s'essoufflait à courir après lui.
Un petit mot, Orlodion Romanovitch. Il en sera de cette affaire comme Dieu voudra, mais pour la forme, j'aurais à vous demander quelques renseignements. Ainsi, nous nous reverrons encore, certainement.
Et Porphyre s'arrêta en souriant devant le jeune homme.
Certainement, fit-il une seconde fois.
On pouvait supposer qu'il aurait encore voulu dire quelque chose, mais il n'ajouta rien.
Oh, pardonnez-moi ma manière d'être de tantôt, Porfir Pietrovitch. J'ai été un peu vif, commença Raskolnikov, qui avait recouvré tout son aplomb et qui même éprouvait une irrésistible envie de gouailler le magistrat.
Laissez donc, ce n'est rien, reprit Porfir d'un ton presque joyeux.
Je suis moi-même, j'ai un caractère fort désagréable, je le confesse. Mais nous nous reverrons. Si Dieu le permet, nous nous reverrons souvent.
Et nous ferons définitivement connaissance ensemble, dit Raskolnikov.
Et nous ferons définitivement connaissance ensemble, répéta comme un écho Porfir Pietrovitch.
Et clignant de l'œil, il regarda très sérieusement son interlocuteur.
Maintenant, vous allez à un dîner de fête.
Un enterrement.
Ah oui, c'est juste. Ayez soin de votre santé.
De mon côté, je ne sais quel vœu faire pour vous, répondit Raskolnikov. Il commençait déjà à descendre l'escalier, mais soudain il se retourna vers Porphyre.
Ben, vous souhaiterez volontiers plus de succès que vous n'en avez eu aujourd'hui. Voyez pourtant comme vos fonctions sont comiques.
Ah, c'est beau, le juge d'instruction, qui s'apprêtait déjà à regagner son appartement, dressa l'oreille.
« Qu'est-ce qu'elles ont de comique ? » demanda-t-il. « Comment donc ? Voilà ce pauvre Mikolka. Bon, combien vous avez dû le tourmenter, l'obséder, pour lui arracher les aveux ? Jour et nuit, sans doute, vous lui avez répété, sur tous les tons, « Tu es l'assassin, tu es l'assassin !» Vous l'avez persécuté sans relâche, selon votre méthode psychologique. Or maintenant qu'il se reconnaît coupable, Vous recommencez à le turlupiner en lui chantant une autre gamme. Tu mens, tu n'es pas l'assassin, tu peux pas l'être, tu dis pas la vérité. Eh bien, après cela, n'ai-je pas le droit de trouver comique vos fonctions? Ainsi, vous avez remarqué que tout à l'heure, j'ai fait observer à Nicolas qu'il ne disait pas la vérité. Comment l'aurais-je pas remarqué? Vous avez l'esprit subtil, rien ne vous échappe. Et en outre, vous cultivez la facétie. Vous avez la corde humoristique. C'était, dit-on, le trait distinctif de notre écrivain Gogol. Oui, de Gogol. En effet, oui, de Gogol. Bon, au plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous revoir. Le jeune homme retourna directement chez lui. Arrivé à son domicile, il se jeta sur son divan et durant un quart d'heure, il tâcha de mettre un peu d'ordre dans ses idées qui étaient fort confuses. Il n'essaya même pas de s'expliquer la conduite de Nicolas, sachant qu'il y avait là-dessous un mystère dont, pour le moment, il chercherait en vain la clé. Du reste, il ne se faisait pas d'illusions sur les suites probables de l'incident. Les aveux de l'ouvrier ne tarderaient pas à être reconnus mensongers, et alors les soupçons se porteraient de nouveau sur lui, Raskolnikov. Mais en attendant, il était libre, et il devait prendre ses mesures en prévision du danger qu'il jugeait imminent. Jusqu'à quel point, toutefois, était-il menacé? La situation commençait à s'éclaircir. Le jeune homme frissonnait encore en se rappelant son entretien de tout à l'heure avec le juge d'instruction. Sans doute, il ne pouvait pénétrer toutes les intentions de Porphyre, mais ce qu'il en devinait était plus que suffisant pour lui faire comprendre à quel terrible péril il venait d'échapper. Un peu plus, et il se perdait sans retour. Connaissant l'irritabilité nerveuse de son visiteur, le magistrat s'était engagé à fond sur cette donnée et avait trop hardiment découvert son jeu, mais il jouait presque à coup sûr. Certes, Raskolnikov ne s'était déjà que trop compromis tantôt, cependant, les imprudences qu'il se reprochait ne constituaient pas encore une preuve contre lui. Cela n'avait qu'un caractère relatif. Oui, mais ne se trompait-il pas toutefois en pensant ainsi? Quel était le but visé par Porphyre? Celui-ci avait-il réellement machiné quelque chose aujourd'hui? Et s'il y avait un coup monté, en quoi consistait-il? Sans l'apparition inattendue de Nicolas, comment cette entrevue aurait-elle fini? Raskolnikov s'était assis sur le divan, les coudes sur ses genoux et la tête dans ses mains. Un tremblement nerveux continuait à agiter tout son corps. À la fin, il se leva, prit sa casquette et, après avoir réfléchi un moment, se dirigea vers la porte. Il se disait que, pour aujourd'hui du moins, il n'avait rien à craindre. Tout à coup, il éprouva une sorte de joie. L'idée lui vint de se rendre au plus tôt chez Catherine Ivanovna. Bien entendu, il était trop tard pour aller à l'enterrement, mais il arriverait à temps pour le dîner, et là, il verrait Sonia. Il s'arrêta, réfléchit, et un sourire maladif se montra sur ses lèvres. « Oh, aujourd'hui... « Aujourd'hui, répéta-t-il, oui, aujourd'hui même, il le faut. » Au moment où il allait ouvrir la porte, elle s'ouvrit d'elle-même. Il recula épouvanté en voyant paraître l'énigmatique personnage de la veille, l'homme sorti de dessous terre. Le visiteur s'arrêta sur le seuil, et après avoir regardé silencieusement Raskolnikov, fit un pas dans la chambre.
Il était vêtu exactement comme la veille, mais son visage n'était plus le même. Il semblait fort affligé et poussait de profonds soupirs. « Que voulez-vous ? » demanda Raskolnikov, pâle comme la mort. L'homme ne répondit pas, et tout à coup s'inclina presque jusqu'à terre. Du moins, il toucha le parquet avec l'anneau qu'il portait à la main droite. « Qui êtes-vous ? » s'écria Raskolnikov.
« Je vous demande pardon, » dit l'homme à voix basse.
« De quoi ?»«
De mes mauvaises pensées. »
Ils se regardèrent l'un l'autre.
Ben, « J'étais fâché. Quand vous êtes venu l'autre jour, ayant peut-être l'esprit troublé par la boisson, vous avez questionné à propos du sang et demandé au dvornik de vous conduire au bureau de police. J'ai vu avec regret qu'il ne tenait pas compte de vos paroles, vous prenant pour un homme ivre. Cela m'a tellement contrarié, je n'ai pas pu dormir, mais je me rappelais votre adresse, et hier je suis venu ici. « Ah, c'est vous qui êtes venu ?» interrompit Raskolnikov. La lumière commençait à se faire dans son esprit. « Oui, je vous ai insulté. »« Ah, vous étiez donc dans cette maison-là ?»« Oui, je me trouvais sous la porte cochère lors de votre visite. »« Est-ce que vous l'avez oublié ? J'habite là depuis fort longtemps. »« Je suis pelletier. » Raskolnikov se remémora soudain toute la scène de l'avant-veille. En effet, indépendamment des dvornik, il y avait encore sous la porte cochère plusieurs personnes, des hommes et des femmes. Quelqu'un avait proposé de le conduire immédiatement chez le commissaire de police. Il ne pouvait se rappeler le visage de celui qui avait émis cet avis, et maintenant même, il ne le reconnaissait pas, mais il se souvenait de lui avoir répondu quelque chose, de s'être tourné vers lui. Ainsi s'expliquait le plus simplement du monde l'effrayant mystère de la veille. Et sous l'impression de l'inquiétude que lui causait une circonstance aussi insignifiante, il avait failli se perdre. Cet homme n'avait rien pu raconter, sinon que Raskolnikov s'était présenté pour louer l'appartement de la veille et avait questionné au sujet du sang. Donc, sauf cette démarche d'un malade en délire, sauf cette psychologie à deux fins, Porphyre ne savait rien. Il n'avait point de fer, rien de positif. Par conséquent, pensait le jeune homme, s'il ne surgit point de nouvelles charges, oh, il n'en surgira pas, j'en suis sûr, qu'est-ce que l'on peut me faire? Lors même que l'on m'arrêterait, comment établir définitivement ma culpabilité? Une autre conclusion ressortait pour Raskolnikov des paroles de son visiteur. C'était tout à l'heure seulement que Porphyre avait eu connaissance de sa visite au logement de la victime. « Vous avez dit aujourd'hui à Porphyre que j'étais allé là ?» demanda-t-il, frappé d'une idée subite. « À quel Porphyre ?»« Au juge d'instruction. »« Mais je le lui ai dit. Comme les dvornik n'étaient pas allés chez lui, je m'y suis rendu. Aujourd'hui, je suis arrivé une minute avant vous. » Et j'ai tout entendu. Je sais qu'il vous a fait passer un vilain quart d'heure. Où? Quoi? Quand? J'étais chez lui, dans la pièce contiguë à son cabinet. Je suis resté là tout le temps. Comment? Ainsi, c'est vous qui étiez la surprise. Mais comment donc cela a-t-il pu arriver? En parlez, je vous prie. Voyons, commença le bourgeois. Que les dvornik refusaient d'aller prévenir la police sous prétexte qu'il était trop tard et qu'il trouverait le bureau fermé, J'en éprouvai un vif mécontentement et je résolus de me renseigner sur votre compte. Mais le lendemain, c'est-à-dire hier, je pris mes renseignements et aujourd'hui je me suis rendu chez le juge d'instruction. La première fois que je me suis présenté, il était absent. Une heure après, je suis revenu et je n'ai pas été reçu. Enfin, la troisième fois, on m'a introduit. J'ai raconté les choses de point en point comme elles s'étaient passées. En m'écoutant, il bondissait dans la chambre et se frappait la poitrine. « Voilà comment vous faites votre service, brigand !» s'écriait-il. « Si j'avais su cela plus tôt, je l'aurais fait chercher par la gendarmerie. » Ensuite, il est sorti précipitamment, a appelé quelqu'un et a causé avec lui dans un coin. Puis il est revenu vers moi et s'est mis à me questionner, tout en proférant fortes imprécations. Bon, je lui ai rien laissé ignorer. Je lui ai dit que vous n'aviez pas osé répondre à mes paroles d'hier et que vous n'aviez pas reconnu. Il continuait à se frapper la poitrine, à vociférer et à bondir dans la chambre. Sur ces entrefaites, on vous a annoncé. « Retire-toi derrière la cloison, » m'a-t-il dit alors en m'apportant une chaise, « et reste là sans bouger, quoi que tu entendes, il se peut que je t'interroge encore. » Puis il a fermé la porte sur moi. Quand on a amené Nicolas, il vous a congédié, m'a ensuite fait sortir. « J'aurai à te questionner encore, » a-t-il dit. « Est-ce qu'il a questionné Nicolas devant toi ?» Bon, je suis sorti aussitôt après vous et c'est alors seulement qu'a commencé l'interrogatoire de Nicolas. Son récit terminé, le bourgeois salua de nouveau jusqu'à terre. « Pardonnez-moi ma dénonciation et le tort que je vous ai fait. »« Que Dieu te pardonne, » répondit Raskolnikov. À ces mots, le bourgeois s'inclina encore, mais seulement jusqu'à la ceinture, puis il se retira d'un pas lent. Ben, « Pas d'inculpation précise, rien que des preuves à deux fins, » pensa Raskolnikov, renaissant à l'espérance, et il sortit de la chambre. Ah, « À présent, nous pouvons encore lutter, » se dit-il avec un sourire de colère, tandis qu'il descendait l'escalier. C'était à lui-même qu'il en voulait. Il songeait avec humiliation à sa pusillanimité.